La chaussure. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, à voir au théâtre du Gymnase Peter Pan, une création d'Alexis Moati, metteur en scène, qui nous rejoint tout à l'heure pour nous parler de ses choix artistiques de son Peter Pan. Au cœur de l'émission, le petit cinéma de Photokino pour explorer l'imaginaire iranien. Nathalie, bonjour.
Bonjour Marie-Dominique. Et oui, nous vous proposons un programme de 4 films d'animation pour partir au pays des contes persans.
Une invitation à une rencontre avec Ghislaine Herbera, auteure de Sans tête, un travail sur les masques et les humeurs, le samedi 6 mars à la librairie Regard. Et tout de suite, rencontre avec Betty Bonne, qui fabrique ses images sans pinceau ni crayon, mais avec un ordinateur. Ses originaux sont les livres imprimés, à partir desquels elle a aussi réalisé des films d'animation. Partons en balade la nuit avec Dudu, Coco et Nana, et Le Facteur, ce sont là les titres de ses albums. Betty Bonne, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder cette rencontre pour entendre votre voix d'auteur d'album jeunesse. Nous allons évoquer La Nuit aux éditions du Rouergue, Dudu chez Thierry Magnier, Balade aux éditions du Sorbier. Tous les trois ont paru en 2005, une année où vous êtes entré en force sur la scène des albums jeunesse, me semble-t-il, même si auparavant vous avez illustré des albums aux éditions Le Père Castor ou chez Mango Jeunesse encore. Puis en 2008 a paru la suite de Dudu aux éditions Thierry Magnier, Dudu, Coco et Nana. L'album est d'ailleurs accompagné d'un DVD, un film d'animation adapté de Dudu, réalisé par vous-même. Et puis, le tout dernier vient de paraître, L'heure du facteur, aux éditions du Rouergue, sur les tables des librairies depuis le 17 février 2010. Alors, Betty Bonne, vous faites partie de cette génération d'auteurs qui a suivi les arts décoratifs de Strasbourg, et vous nous livrez des images modernes, aux couleurs éclatantes, aux lignes franches, grinçantes parfois. Le tout a la particularité d'un point de vue technique d'être créé sur un écran ordinateur. Pouvez-vous nous commenter ce choix déjà? Vous n'utilisez pas de crayon ni de pinceau?
Oui, alors en fait, ma technique de base, c'est le papier découpé.
Oui.
En fait. Et donc, au moment où j'ai commencé à vraiment faire des livres qui ont été imprimés, c'est vrai que je me suis posé la question de l'intérêt d'avoir, de faire un original quand ensuite on imprime l'image en fait.
Mm-hmm.
Donc j'ai commencé à travailler sur ordinateur, surtout pour avoir des couleurs réussies au niveau de l'impression en fait. C'est ça qui m'a fait vraiment basculer vers cette technique. Souvent quand on fait un dessin ou une peinture, après quand on la scanne, on perd beaucoup de la qualité de la couleur en fait dans le livre à l'impression. Donc voilà, moi j'ai décidé d'utiliser l'ordinateur pour faire des couleurs vraiment pures, vraiment franches quoi.
Alors du point de vue des histoires, votre regard s'attarde beaucoup, souvent, sur le milieu urbain, mais pas uniquement. Un regard sensible et poétique que portent vos personnages sur le monde de proximité qui les entoure, dans lequel ils évoluent et dans lequel ils sont toujours en mouvement. Avec vous, Betty Bonne, on sort, on part pour une petite trotte, en promenade. Vous nous invitez à vous suivre la nuit, en ville, à la recherche de quelqu'un. C'est une récurrence volontaire. Est-ce qu'un livre, pour vous, c'est un voyage?
C'est vrai que souvent, j'ai pas forcément une histoire qui se tient depuis le début. Enfin, mes livres, ils sont pas forcément basés sur une aventure. Le fait de faire avancer un personnage comme ça dans le décor, ça me permet de tenir un fil en fait, un fil à dérouler, et puis de construire l'histoire plus par rapport à ce qui se passe autour du personnage que que sur lui-même au départ, en fait. Mm-hmm. Donc, et puis, ça se fait tout naturellement. C'est pas quelque chose qui était conscient au départ, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve assez fréquemment dans mes livres, du coup.
Vous avez évoqué la couleur qui détermine le choix d'une technique, mais La Nuit, par exemple, c'est un album noir et blanc. Dans un paysage enneigé, de nuit, Ali part pour une petite balade, les mains dans les poches, et la nuit crée des surprises. Ali n'a pas peur de la nuit. Vous pouvez nous en parler ?
Ben, déjà, pour moi, le noir et blanc, ce sont des couleurs. On les utilise comme des couleurs, donc elles ont beaucoup de force, ces deux couleurs-là. Et puis, ce personnage d'Ali, c'est un personnage qui m'est cher, et d'ailleurs que j'ai continué à utiliser dans le dernier album dont vous avez parlé tout à l'heure.
On va en parler, oui.
C'est un personnage très, très calme, solitaire, et presque un ermite, en fait. Donc dans la nuit, il est face à ses angoisses, à sa peur du noir. Il est comme un enfant, il retrouve ses peurs d'enfant face à la grande nuit. Et puis dans l'heure du facteur, au contraire, c'est un album qui est moins angoissé, quoi, qui est plus sur l'émotion du printemps qui arrive, des choses comme ça. Voilà.
Et puis on est à l'intérieur de sa cabane, donc là. On voit aussi des couleurs, il y a la présence de la chaleur, le feu, le café. Donc c'est une sorte de contraste. Vous dites que c'est un personnage qui vous est cher, c'est un montagnard ?
Voilà, par rapport aux autres albums que je fais qui sont peut-être plus citadins, qui sont dans des ambiances urbaines, etc. Cette série de deux albums, La Nuit et puis L'Heure du Facteur, se passe vraiment dans un endroit très isolé, enneigé. Et c'est plus quelque chose d'autobiographique, en fait, que le reste de mon travail, qui est, enfin, disons, autobiographique par rapport à mon enfance.
Quoi. Oui, parce que vous êtes née en Savoie ?
J'y suis pas née, mais j'y ai vécu très longtemps. Enfin, toute mon enfance, en fait, à partir de l'âge de 5 ans. Et donc, c'était, ma maison ressemblait plus à ça qu'à un immeuble urbain. Donc, je pense que je mets pas mal de souvenirs d'enfance dans ces albums-là, même si le héros est un adulte.
Alors, Balade, on est dans le milieu urbain. C'est une sorte de travelling au fil des pages, un mouvement constant, au fil des pas du personnage. Donc là, effectivement, on change complètement d'univers.
Oui, on change d'univers et à la fois, c'est un livre qui est sans parole, sans texte, qui est aussi quelque part un petit peu méditatif pour moi, hein, par rapport à la série des Dudus, justement, qui est plus violente, on va dire, dans le propos. Mais là, donc, il s'agit d'un petit personnage qui part juste faire une promenade dans la rue, et c'est au lecteur de suivre la promenade en même temps que les pas du personnage, puisqu'il n'y a pas de texte, donc il n'y a pas d'indices sur ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut voir, et c'est au lecteur de se faire son propre chemin dans le livre, en fait.
Alors, vous avez annoncé une transition, un univers différent entre ces deux premiers livres qu'on vient d'évoquer, La Nuit et Balade, et Dudu, donc, Dudu, Coco et Nana, c'est le début d'une trilogie. Là, ce sont des ouvrages qui se répondent, donc on continue à être dans du lien, dans des références. À propos de ces deux livres-là, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors, je pense qu'avec ce travail-là, j'explore une facette, disons, de ce que j'ai envie de raconter, qui est un petit peu plus noire, même si c'est très coloré, donc je travaille beaucoup un texte très rimé, très, très lourd, en fait. Et puis les personnages sont donc des enfants qui sont comme des jumelles ou des triplés, on va dire, ou des quadruplés même, qui se ressemblent beaucoup. Il y a un univers beaucoup plus grinçant, je trouve, dans ce travail-là, plus bizarre, quoi. Et donc ces enfants-là cherchent leur petite sœur qui est perdue, qui a disparu. Donc voilà, il y a quelque chose de, je pense, d'un petit peu angoissant, mais qui est contrebalancé par le travail du texte qui, lui, est très rimé, très enlevé. Voilà.
Dans Dudu, ce sont les deux sœurs qui courent en ville à la recherche de leur sœur perdue. Et dans Dudu, Coco et Nana, ça se répond puisque là, on change de point de vue. C'est la troisième sœur qui est restée à la maison avec la maman qui s'inquiète. Et la fin du livre vient retrouver la fin du livre Dudu. Alors, vous venez d'évoquer l'importance des mots et cette entrée dans la poésie, le rythme des mots. On va écouter un extrait de Dudu.
Au jardin public, des plantes des tropiques, des cactus qui piquent, des trucs botaniques. Mais là, dans un arbre, tout juste à leur barbe, elles voient quelque chose qui bouge. S'approchant sans peur, elles s'écrient en cœur d'un air éperdu.
Dudu !
C'était pas Dudu. Aux zoos, les oiseaux, le museau d'un souriceau ne leur font ni froid ni chaud. Mais aux crocodiles, elles observent, fébriles, le vil reptile aux dents qui rutilent. Il mastique, en public, stoïque. Dans sa bouche, c'est rouge. Dans un haut le cœur, elle s'écrit en cœur d'un air éperdu. C'était pas Dudu.
On vient d'entendre un extrait de Dudu, le fameux DVD que vous avez réalisé à partir du livre, qui d'ailleurs est offert dans l'ouvrage La Suite, en fait, où le livre qui répond, Dudu, Coco et Nana. Et donc, importance des mots et de la poésie. Je crois qu'il y a quand même, vous avez parlé de choses plus grinçantes, mais je crois que la poésie, la sensibilité que vous avez, ce rapport au monde, reste très, très présent et les mots en font partie, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'harmonie.
Oui, c'est vrai que en fait, à la base, pourquoi je suis allée vers le livre pour enfants et puis vers la narration, je pense que c'est d'abord un désir d'écrire à la base quand j'étais plus jeune, quoi. C'est ça qui m'a amenée en fait à connaître l'illustration, etc. Et c'est vrai que ce rapport-là à la langue, je l'ai depuis très longtemps. Et après, avec le dessin, j'ai appris qu'on pouvait aussi écrire, en fait, raconter des choses. Ce qui fait ce qui explique pourquoi il y a des livres presque muets, des livres avec très peu de texte, d'autres qui sont au contraire très écrits au niveau du texte. Parce que voilà, chaque façon de faire développe autre chose dans la narration. Mais c'est vrai que j'ai un rapport à l'écriture qui est assez fort, assez intéressé, on va dire.
Donc un rapport à l'écriture, au mouvement, et puis moi j'ai l'impression tout de même que vous faites des livres tout en ayant un film dans la tête. Donc expliquez-nous un petit peu ce lien-là, puisqu'il existe trois films, un qui a été fait à partir de la nuit, un autre à partir de balades, et Dudu.
Alors ces films, ils ont été réalisés dans un cadre un peu particulier, qui était une résidence d'artiste que j'ai faite en 2006. Et comme on évoquait tout à l'heure le fait que j'ai pas de dessins originaux, que j'ai uniquement des dessins faits sur ordinateur, lorsqu'il s'agit de faire une exposition autour de mon travail, j'avais pas de dessins à présenter sous cadre comme certains illustrateurs peuvent le faire. Ce qui fait que j'ai choisi de réaliser plutôt des films d'animation en rapport avec les livres qui étaient parus à l'époque. Et voilà, je me suis lancée là-dedans dans quelque chose qui m'intéressait déjà à la base, mais que j'avais jamais eu l'occasion de développer en fait.
Bien, Betty Bonne, j'aimerais terminer sur une image, une seule, celle qui a été exposée au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil en 2009. C'est un personnage endormi sur un transat et tout autour de lui sont posés, éparpillés, des objets, des traces qui rappellent des personnages de la littérature jeunesse, dont on peut supposer qu'ils ont nourri vos rêves. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette image, Betty Bonne ?
Alors bon, là, c'est une image un peu particulière qui n'est pas une image de livre, donc qui est une commande dans un cadre bien particulier, qui était justement de mentionner nos héros d'enfance. Et c'est vrai que moi, mes héros littéraires, on va dire, d'enfance, ce sont plutôt des personnages de contes, des contes de Grimm, de Perrault ou d'autres qui m'étaient racontés en fait par ma mère le soir mais aussi dans la journée quand elle avait le temps. ce qui fait que j'ai pas vraiment de référence comme certains ont pu dessiner Tintin comme référence ou des choses comme ça. Moi, j'avais pas vraiment de livre, c'était plus quelque chose qui m'était transmis à l'oral, en fait. Donc, c'est pour ça que dans ce dessin-là, il y a que des traces, mais il n'y a pas vraiment de représentation de héros dessinés. Voilà.
Alors, je rappelle le dernier titre de l'album paru de Betty Bonne, L'heure du facteur, aux éditions du Rouergue. Est-ce qu'il y aura un film, Betty Bonne, à partir de L'heure du facteur?
Non, je pense pas. Je pense que c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, c'était un cas particulier que j'ai adapté ces trois albums de suite. Mais maintenant, je travaille sur un film d'animation qui n'est pas lié à un livre.
D'accord. Voilà. Betty Bonne, je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous lire et de retrouver vos liens tissés au fil des images fixes et animées. À très bientôt, Betty Bonne.
À très bientôt, merci.
Thank you.
rubrique Livres, nous vous invitons à venir rencontrer Ghislaine Herbera au rayon jeunesse de la librairie Regard à la Vieille Charité à Marseille le samedi 6 mars à 15h. Cette rencontre est organisée en partenariat avec les musées de Marseille et le musée des arts africains, océaniens et amérindiens de Marseille. Ghislaine Herbera est auteure de Monsieur sans tête, sans C-E-N-T. Aux éditions Mémo, elle a réalisé un album singulier sur les masques et les humeurs. Elle s'est entre autres inspirée de masques de la collection du musée. C'est un très bel album à découvrir en présence de son auteur. D'autant que, pour préparer cette rencontre, à vos crayons, pinceaux, pastels, bâtons de colle et ciseaux, comme vous voulez, et pourquoi pas à votre ordinateur, à la façon de Betty Bonne. En tous les cas, les enfants, créez votre dessin de masque reflétant votre humeur préférée. La joie, la tristesse, la folie, l'euphorie, la colère, ou encore une humeur boudeuse, c'est vous qui choisissez. Et venez la partager avec Ghislaine Herbera. Alors à noter que ce jour même, l'entrée du MAOA, donc le musée des arts africains, océaniens et amérindiens, sera gratuite de 10h à 17h. Alors pour tout renseignement, le numéro de téléphone de la librairie Regard, 04 91 90 55 34, et vous demandez Lucie.
Vous écoutez Radio Grenouille.
Et maintenant, allons au cinéma. Partons en voyage jusqu'en Iran en retrouvant Nathalie Guimard et la rubrique du petit cinéma de Photokino.
トトロ、あなたトトロって言うのね。
Le petit cinéma.
Mercredi 3 mars 2010 au cinéma Les Variétés à Marseille. Le petit cinéma vous propose une balade à l'eau de rose. Partons sur un tapis volant, vers les contrées lointaines de la Perse, pour une plongée dans l'imaginaire iranien, avec 4 courts-métrages d'animation réalisés entre 1987 et 2003. Ces contes persans sont 4 histoires sans parole, peintes et dessinées, dont les héros sont des animaux, qui vivent au cœur de la nature ou en compagnie des hommes. Dans le plus long voyage du monde, une chenille est réveillée par une goutte d'eau de rosée. Elle se met en route pour un long voyage à la découverte de ce qui l'entoure. La nature est très présente dans les films d'animation iraniens. La pluie, le vent, le soleil sont des personnages à part entière. Les chèvres, les vaches, les pies, les chenilles y ont de beaux rôles. Dans l'imaginaire iranien, les corbeaux sont curieux et colporteurs de nouvelles. Le cycle des saisons ou le cycle de la vie a inspiré de nombreux films. Le second film du programme, intitulé « La pomme », nous peint le voyage d'une pomme tombée de la main d'un paysan lors de la récolte. Que deviendra-t-elle ? Un corbeau la découvre, la picore, et alerte tous les autres animaux. Ah ! Ah !
Ah ! Ah !
Les deux derniers films du programme sont Le Retour et La Vache et le Fermier. Le Retour, c'est celui d'un corbeau encore, mais cette fois désespéré et affamé. L'hiver est rude. Il survole la ville et aperçoit à travers les fenêtres des oiseaux bien nourris et dorlotés dans de jolies cages. Envieux, il fait tout pour se faire prendre. La Vache et le Fermier, c'est le dernier film du programme, mais c'est aussi le premier film de la seule réalisatrice, Fatemeh Gudarzi. Elle nous raconte un rêve, l'histoire d'une rencontre entre un fermier et une vache. Ce programme de 4 films, réuni sous le titre « Les contes persans », dure un peu plus de 45 minutes. Il est donc visible dès le plus jeune âge. Il est sorti en France en 2004. Je crois ne pas me tromper en disant que, avant cela, peu de films d'animation iraniens avaient été montrés sur les grands écrans, en dehors de quelques festivals de cinéma, bien sûr. Comme celui d'Aubervilliers, qui porte un si joli nom, pour éveiller les regards. Et pourtant, le cinéma d'animation n'est pas si récent que cela en Iran. Il est né plus exactement en 1958. C'est monsieur Taja Rachi, un colonel, caricaturiste pour les journaux, qui essaya d'animer pour la première fois ses dessins en 35 mm. Invité par l'État à se consacrer à l'art, Taja Rachi a conçu un minuscule studio d'animation avec deux autres réalisateurs, Ahmadiyye et Karimi. Bien que les premiers films animés diffusés en Iran et bien dû être des Disney, c'est surtout le cinéma tchèque qui a inspiré les premiers réalisateurs de cinéma d'animation iranien. Parfois même, certains d'entre eux sont partis étudier le cinéma en Tchécoslovaquie pendant plusieurs années. Mais le grand déclencheur de la créativité iranienne en matière de cinéma d'animation, c'est incontestablement l'Institut Kanoun, un institut pour le développement intellectuel des enfants et des adolescents. L'Institut Kanoun a été créé en 1962 à Téhéran. C'était au départ un centre à vocation éducative, chargé de créer des bibliothèques et d'éditer des livres illustrés pour la jeunesse, dans un but artistique et pédagogique. En 1966, cet institut a créé le premier festival international du film pour enfants. Et il a commencé à produire des films en 1969, également pour les enfants. C'est même Abbas Kiarostami, le plus célèbre réalisateur iranien actuel, qui a été chargé de développer le département film de Kanoun. À l'époque, Abbas Kiarostami n'était pas encore aussi connu. Il illustrait des livres et réalisait des films publicitaires. On peut voir le logo de Kanoun en ouverture de quasiment tous les films d'animation iraniens. Tiens, écoutons-le. Kanoun a publié plus de 300 ouvrages pour la jeunesse et produit plus de 150 films. Il a aussi ouvert une quarantaine de centres culturels dotés de bibliothèques, de salles de projection, de concerts, d'ateliers, de laboratoires photo pour les enfants. Et il est toujours actif, malgré les nombreux bouleversements politiques et économiques de son pays.
Le petit cinéma.
Les films des contes persans sont dessinés sur celluloïde ou peints à l'huile sur du verre. Mais on peut voir d'autres films d'animation iraniens en France, au cinéma ou en DVD, réalisés avec des techniques très variées, en papier découpé, marionnettes ou même en tissu. Par exemple, Les Contes de la Mère Poule, Trois Bijoux, tout doux, conseillés aux tout petits aussi. Nous les avons déjà programmés au petit cinéma. Et nous les reprogrammons, car nous les aimons beaucoup. Un extrait sonore de l'un d'entre eux fait même partie du générique du petit cinéma. Allez, on le réécoute. Les films d'animation iraniens que vous pouvez trouver en DVD. Il y a aussi le programme La Montagne aux Bijoux, mais aussi Les Contes Persans 2, avec notamment le magnifique court-métrage Pluie de fleurs, qui rappelle les miniatures persanes. Et pour les plus grands et les adultes surtout, il y a bien sûr Persepolis, le film Marjan Satrapi, adapté de sa bande dessinée autobiographique du même nom, édité chez l'association. Le film n'a pas été réalisé en Iran, soit en France, oui. Marjan Satrapi y raconte par contre son enfance en Iran, au moment de la révolution islamique, et puis son exil en Europe. La musique qui m'accompagne est iranienne, elle aussi. Jamshid Shemirani joue du zarb, un instrument appelé tombak en persan. Le petit cinéma est toujours précédé d'un atelier. Et ce mercredi 3 mars à 9h, nous vous proposons de nous rejoindre au pied de l'écran de la grande salle du cinéma Les Variétés pour découvrir quelques-uns des livres édités par l'Institut Kanoun. Un atelier qui s'inspirera de la nature, lui aussi, pour introduire les 4 courts-métrages pour les 3-4 ans, réservation auprès de Photokino. Les contes persans seront rediffusés le samedi 6 mars et le dimanche 7 mars au matin, au cinéma Les Variétés, le samedi l'après-midi. Je vous souhaite une belle projection et beaucoup de belles découvertes. À bientôt!
Cette dernière partie d'émission, nous vous proposons d'aller voir Peter Pan sur la scène du théâtre du Gymnase, une création d'Alexis Moati, avec nous aujourd'hui, metteur en scène et fondateur de la compagnie Vol Plané basée à Marseille. Alexis Moati, bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de vos choix artistiques pour monter un spectacle, Peter Pan, une figure emblématique et pour cause. Nous pouvons tous avoir la prétention de dire que Peter Pan nous connaissons, car il y a eu plusieurs adaptations au théâtre, au cinéma, des images dans les livres jeunesse et en bande dessinée aussi. Plus communément, Peter Pan est l'enfant qui ne voulait pas grandir, et vous, Alexis Moati, c'est le petit garçon qui haïssait les mères. Une invitation à connaître votre Peter Pan, votre interprétation du texte de James Matthew Barry, Peter Pan et Wendy, écrit en 1904 et qui se déroule à Londres. Donc Alexis Moati, donc dans cet imaginaire collectif, comment est-ce que vous avez fait des choix? Comment est-ce que vous avez tricoté? J'ai juste envie de dire que peut-être que le film de Walt Disney a été celui qui a été le plus prégnant, le plus marquant. Comment est-ce que vous avez choisi
Oui, c'est vrai, mais juste un petit détail, c'est que, c'est pas un détail d'ailleurs, c'est que d'abord Peter Pan, avant d'être un dessin animé, avant d'être même un roman, c'était une pièce de théâtre. Ça a été vraiment créé pour le théâtre. Après, bon, moi, évidemment, je l'ai découvert forcément par le dessin animé quand j'étais plus jeune. Et même dans le dessin animé, que je trouve maintenant un petit peu édulcoré, un petit peu plein de couleurs pastel, avec un message sur l'imaginaire très fort, je pressentais quand même quelque chose que je n'arrivais pas à nommer, mais il y avait des choses qui me touchaient et qui me procuraient pas mal d'émotions. Et en grandissant, puisque j'ai choisi de grandir, moi...
Vous avez bien fait.
Je sais pas. je doute encore un peu. J'ai eu des enfants et je me suis aperçu que les enfants, les miens, étaient aussi fascinés par Peter Pan. Et je pense pas que ça soit moi qui les ai influencés, mais il y a vraiment une. Je pense que c'est la première pièce qui parle aussi clairement de la peur de grandir, l'espèce d'angoisse devant l'inconnu qu'on peut avoir. Et ça, je pense que ça, c'est universel. Et je pense que le succès immédiat, parce que ça a été un succès immédiat quand ça a été joué à Londres en 1904, vient de là. Mm-hmm. Parce que c'était un public d'adultes, hein, au départ. Ça n'était pas...
Destiné aux enfants.
Ça n'était pas... Barry a une dédicace assez claire. Enfin, pas une dédicace, mais plutôt un texte qu'il avait mis sur un programme en disant que c'était une pièce destinée aux enfants, écrite par quelqu'un qui entend rester un enfant. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi, il parle aussi à l'enfant qui est dans l'adulte qu'on a pu devenir, quoi. Mmh. Voilà.
Mais lui-même, il a été aussi très touché dans son. On peut faire référence à son autobiographie, peut-être.
Si on parle de ça, c'est vrai que Barry, l'histoire de Barry est absolument tragique, et je pense que Peter Pan, c'est Barry. C'est-à-dire que la tragédie que peut porter Peter, elle est totalement présente dans la vie de Barry, parce qu'il a perdu d'abord un de ses frères. Il a eu un rapport à sa mère extrêmement compliqué et assez terrible, puisqu'il s'est mis à, pour consoler sa mère, il s'est mis à imiter son frère et à le remplacer. Donc c'est un petit garçon qui a été aimé non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il faisait, pour la place qu'il prenait. Et ça, je pense que pour un être humain, c'est terrible. Et je pense que le génie qu'il a eu, c'est de réinventer sa propre biographie en réécrivant, jusqu'à réécrire l'histoire de sa mère dans un texte qui va paraître bientôt chez Actes Sud, qui s'appelle « Margaret Ogilvy, du nom de sa mère ». Voilà, c'est un texte inédit en France qui a été traduit donc par Céline Albin Fèvre, dont on parlera peut-être après, et qui va sortir au mois de mai. Voilà.
Alors, Peter Pan, donc cette pièce-là, elle s'inscrit dans un moment de la journée bien particulier, un passage entre le jour et la nuit, entre le réel et l'imaginaire. Donc, c'est toute une pièce sur ce moment-là, qui est un moment très très fort, un moment où on raconte des histoires, où on est dans du lien avec la mère qui raconte les histoires, et comment ensuite on s'endort et on se laisse emporter par son imaginaire.
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, bon, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est Barry lui-même qui parle de cette fameuse demi-heure entre l'éveil et le sommeil, où tout devient possible, où les choses se mélangent, où les choses de la journée peuvent se retrouver, déformer de façon peut-être un peu angoissante, ou alors de façon plus burlesque, mais où la frontière entre le réel et l'imaginaire est beaucoup moins claire, où il y a une espèce de zone où, je ne sais pas, moi, je me rappelle de m'être enfui dans des visions sur des rideaux qui devenaient ce que je voulais quand j'étais petit, ou même encore d'ailleurs, ou sur des motifs d'un canapé dans lequel on peut plonger, imaginer plein de choses. Donc vraiment, voilà, ça parle de ce glissement-là, et c'est exactement ça, ouais. C'est exactement cette période-là que la pièce évoque, qu'elle dilate en fait.
Voilà. Et pour rentrer plus dans le détail, c'est aussi à travers ce mot-là que j'aime bien, qui est vraiment caractéristique de l'enfance, c'est le faire semblant.
Oui.
C'est aussi de jouer à être pirate, de jouer à papa-maman. Wendy et Peter Pan jouent quand même très volontiers à papa-maman.
Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que, en plus, bon, après on pourra parler du coup du choix de mise en scène, mais a priori, ça n'est qu'un jeu d'enfant, Peter Pan. Et même au départ, Barry a écrit cette pièce. Il y a une très belle dédicace à la première apparition de ses œuvres complètes. Il a écrit une dédicace aux 5 enfants qui l'ont inspiré, qui étaient les enfants Llewelyn Lee Davis, qui étaient 5 enfants d'une famille qu'il fréquentait beaucoup, avec qui il avait des rapports assez étranges, puisqu'il a carrément... il vivait au cœur de cette famille, quoi. Il a été une espèce de parasite de cette famille. Il a dédicacé Peter Pan à ses 5 enfants en disant qu'il ne se rappelait plus avoir écrit cette pièce, mais qu'au contraire, c'était eux qui l'avaient écrit, et lui n'avait fait que recueillir les bribes de leur jeu. Donc cette pièce est vraiment née d'un jeu d'enfant, en observant les enfants jouer, en scénarisant certains jeux, puisqu'il les avait emmenés en vacances. Il avait écrit un scénario qui s'appelait The Boy Castaways, qui racontait des naufragés sur une île avec des pirates. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment né de ça. Donc la dimension du jeu d'enfant est toujours présente, et j'espère que vraiment dans la mise en scène, c'est quelque chose qu'on pourra lire, parce que c'est comme ça que moi j'ai pu rêver à un spectacle, à me dire tiens, ça, on peut le jouer sans être 40 000 sur scène, avoir 12 000 changements de décor, mais en se replaçant du point de vue de l'enfant et du jeu de l'enfant.
Vous avez évoqué cette différence entre des interprétations édulcorées, et qu'en fait c'est un univers assez sombre, assez dur.
Oui.
Donc là on peut peut-être mettre en exergue les thèmes qui sont soulevés à travers cette histoire de Peter Pan, les enfants abandonnés, ce rapport compliqué à la mère.
Oui.
Et vous avez fait des choix très probablement. Quel thème vous avez mis un peut-être un peu plus en relief dans cette histoire.
Bon, pour moi, le point de départ, le thème par lequel je suis rentré, c'était l'abandon. C'est-à-dire que Peter Pan est apparu dans un roman qui s'appelle Le Petit Oiseau Blanc. Il y a 4 chapitres qui s'appellent Peter Pan dans les jardins de Kensington, et on a quelquefois édité que ces 4 chapitres qui racontent la naissance de Peter Pan, où c'est un petit garçon qui a 7 jours et qui entend ses parents parler de son avenir et ce qu'il allait devenir plus tard, et qui décide de s'envoler par la fenêtre, puisque dans la mythologie de Barry, les enfants, avant qu'on les pèse, qu'on les sécurise en gros, peuvent voler. Donc Peter Pan s'en va jouer pendant un certain temps avec les oiseaux et les fées dans les jardins de Kensington, qui est un parc public londonien. Et quand il décide de revenir, il est resté un peu trop longtemps et les barreaux sont fermés. La fenêtre est fermée et il y a un autre petit garçon qui a pris sa place. Donc le thème de l'abandon, c'est vraiment le point d'entrée du personnage. Et c'est un être qui est entre deux, entre l'incarnation. C'est pas vraiment un petit garçon, puisqu'il n'a pas pu vraiment être reconnu dans le regard de sa mère. Et c'est cet être qui est enfermé dehors et qui se crée sa propre mythologie, ce qu'on appelle Neverland, c'est-à-dire ce pays du jamais-jamais en français. Voilà.
Et on retrouve donc là, ce thème-là est bien mis en exergue aussi avec les enfants perdus.
Exactement, puisque les enfants perdus sont les enfants qui sont tombés de leur landau quand leur nourrice regardait ailleurs, et que Peter Pan recueille s'ils ne sont pas réclamés dans les 7 jours. Mais c'est remarqué que ça n'est que des garçons, il n'y a pas de filles, puisque les filles sont bien trop malines pour tomber de leur landau.
Exactement.
Donc effectivement, il y a le thème de l'abandon, mais il y a aussi... Il y a le thème de la famille, notamment, c'est vraiment l'histoire d'un petit garçon. Alors, il y a une querelle de traduction qui ne veut pas grandir, mais au départ, c'était dans l'esprit de Barry. Il y a des notes qui stipulent que c'était le petit garçon qui ne peut pas grandir.
Et qu'est-ce qui l'empêche ?
Voilà. Et du coup, ce qui l'empêche, à mon avis, c'est ce rapport qui n'est pas fini, cette chose qui n'est pas reconnue dans le regard de sa mère et qui le laisse dans un entre-deux, voilà. Et il y a une didascalie très drôle, assez éclairante là-dessus, à la fin, où il est en train de parler avec sa mère, puisque c'est Madame Darling. Bon, pour nous, c'est sa mère, mais c'est pas forcément dit aussi clairement. Et elle lui propose de l'adopter. Il lui dit, mais je devrais devenir un homme. Elle lui dit, bien sûr.
Et j'irai à l'école.
Oui. Et là, elle lui dit, laissez-moi ma vieille, vous ne m'aurez pas, je veux toujours rester un petit garçon et m'amuser. Et là, il y a une petite didascalie qu'on remarque à peine, mais qui dit, avec passion, mais c'est sans doute sa plus grande feinte. C'est-à-dire que je pense que l'endroit de la force de Peter Pan, c'est exactement l'endroit de sa blessure. C'est confondu, quoi. Sa plus grande faiblesse se confond avec ce qu'on considère son insolence ou sa force, quoi. C'est ce mélange-là. Qui était intéressant, quoi.
Et qui donne un personnage donc effronté,
insolent, égocentrique,
très égocentrique, oui, tout à fait, oui.
Oui, tout à fait, comme les enfants, puis qui oublie les gens dans la demi-heure. C'est-à-dire vraiment, c'est quasiment de l'enfance où quand on quitte une ville, elle n'existe plus pour nous. C'est-à-dire que les choses n'existent que devant nous. Ou comme des gens très vieux qui oublient tout, comme des gens malades d'Alzheimer. Il y a aussi cette dimension-là. J'ai relu la nouvelle de Fitzgerald, de Benjamin Button, qui est cet enfant qui vit à l'envers, qui naît vieux et qui finit petit garçon. Et effectivement, il y a quelque chose aussi de l'extrême vieillesse. Les opposés se rejoignent un petit peu là. Voilà.
Alors concrètement, la mise en scène, donc vous venez de nous dire que c'était par le truchement du jeu, donc des souvenirs de comment est-ce qu'on joue et comment est-ce qu'on met en scène, comment est-ce qu'on investit un espace. J'ai juste vu une répétition, donc c'est assez grandiose. Ouais. Ça occupe tout l'espace en volume, donc on s'y croit, les enfants volent.
Oui, les enfants volent. Quand on lit la pièce, on se dit c'est immontable, c'est un théâtre à machines qui était vraiment un théâtre de l'époque. Et en même temps, il y a vraiment des rapports intéressants, et je trouve que ce texte, il résonne très fort. Mais quand on est metteur en scène, on se dit mais c'est infaisable, il y a 30 personnages, des fées, des indiens, des pirates, des changements de décor, il y en a au moins 7 énormes. Et du coup, la seule entrée qui me paraissait en plus intéressante, c'était de pouvoir se replacer, effectivement, comme vous le disiez, du point de vue du jeu d'enfant. Et après, la difficulté, c'était comment puisque je voulais travailler avec des adultes, comment on peut interpréter des enfants en étant des adultes. Eh bien, je crois tout simplement en se ressouvenant physiquement et en n'étant pas dans la convention de ce que l'adulte voit de l'enfant ni dans la nostalgie du regard de l'adulte sur l'enfant, mais en essayant de se rappeler ses mémoires. On a fait beaucoup d'improvisation où on a joué. Je laissais le théâtre comme un espèce de grand terrain de jeu, scène et salle comprises, et on travaillait sur des heures et des heures d'improvisation où au bout d'un moment, ce qu'il y avait, c'était on y retrouvait vraiment quelque chose de l'enfance. Et c'était très beau à voir et assez captivant. Après, cette chose-là, il a fallu la frotter à la narration, au fait qu'à un moment, ce n'était pas notre texte ou notre histoire, c'était l'histoire de Barry qu'il fallait traverser. Mais voilà, c'était ce point de frottement-là, moi, qui m'intéressait. Mmh. Et du coup, on peut tout raconter. On peut tout raconter parce qu'un bateau pirate, il suffit de faire une cabane d'enfants, il suffit de partir de tout ce qu'il y a dans la nurserie, donc c'est-à-dire la chambre d'enfants. Et de la faire évoluer comme si les parents, et d'ailleurs c'est le cas, les parents sont absents, donc les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Mmh. Et on peut aller très loin dans le jeu jusqu'à ce qu'on puisse quasi se faire peur, quoi. Mmh. On a souvent imaginé que ces enfants étaient abandonnés donc par leurs parents puisqu'ils sortent, et que du coup ils pouvaient vivre des mois et des mois dans une maison en autarcie tout seul, et qu'est-ce qui se passerait, quoi, jusqu'où ils iraient. Mmh. Voilà, ça nous intéressait beaucoup. Ces déménagements de meubles, cette espèce de folie où d'un coup on peut s'emparer de l'univers domestique et quotidien et le réinventer à travers le regard, quoi. Mm-hmm. À travers l'imaginaire.
Peut-être pour en savoir plus, moi je voulais signaler un bouquin, un grand album jeunesse magnifique, Peter Pan, donc sur un texte de James Matthew Barry, traduit par Henri Robillot en 88, dont les illustrations ont été réalisées par Suzanne Janssen aux éditions Être. Et peut-être pour en savoir plus aussi, pour les curieux sur la vie de James Matthew Barry, Alexis Moati, vous aviez envie de signaler le travail conséquent
de Céline Albin-Fèvre, mmh, qui est la traductrice de l'adaptation qu'on a choisie. L'adaptation qu'on a choisie est une somme de quasi les 12 versions qui ont existé pour le théâtre, qui a été faite par Andrew Birkin. Andrew Birkin, c'est le spécialiste de Barry, le biographe, mmh, qui a réalisé Lost Boy pour la BBC, qui a une biographie filmée de Barry. Et Céline a traduit ce texte, et effectivement, je peux dire sans vraiment mentir, elle a quasiment consacré sa vie à faire des recherches autour de cet auteur. Elle a traduit Le Petit Oiseau Blanc, qui est aussi un texte inédit en France. Et puis, c'est elle qui va traduire Margaret Ogilvy. Et dans ce site, elle a traduit énormément de choses, notamment des choses très intéressantes pour ceux qui veulent aller plus loin, qui sont les carnets de notes de Barry, qui précèdent l'écriture de Peter Pan, où on voit que le premier sous-titre de Barry, c'était Le petit garçon qui haïssait les mères. Donc on a pris le premier sous-titre, ça vient de lui. Voilà. On a pris aussi d'autres idées, mais que je ne veux pas révéler avant. Mais
Bien entendu.
Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce site, notamment des photos d'époque. Et quand vous parlez de renourrir un imaginaire, essayer de sortir de Walt Disney, là, pour le coup, elle a accumulé énormément de matière. Donc, photos, textes, traductions, vraiment, c'est passionnant, mm-hmm, pour ceux qui veulent.
Merci beaucoup. Donc, Peter Pan, à relire et à voir. Donc, pour ce que nous dit encore la force de l'imaginaire, ce qui pousse, ce qui aide à grandir, ce qui fait obstacle, donc à travers les joies, les peines, les jeux, les rêves et les faire-semblants. Peter Pan ou le petit garçon qui haïssait les mères, mise en scène par Alexis Moati, c'est au Théâtre du Gymnase du 26 février au 5 mars 2010. Alexis Moati, merci beaucoup et au plaisir.
Merci beaucoup.
Un caillou dans la chaussure, c'est terminé. Prochain rendez-vous au printemps, le mercredi 24 mars à 11h sur Radio Grenouille. En attendant, vous pouvez écouter les archives sonores sur la page de l'émission sur le site www.grenouille888.org. Tous mes remerciements à Nathalie Guimard et Sébastien Gély en coulisses, fidèles collaborateurs. Merci à nos invités et à très bientôt.
À bientôt et bienvenue à Daphné.